le soleil se levait à la pointe est de l'Afrique. Le site archéologique de la vallée de l'Omo aurait déjà dû s'éclairer des premières lueurs orangées de l'aube, mais ce matin-là ne ressemblait à aucun autre. Assis sur un muret de terre sèche, serrant sa timbale de café pour se réchauffer les mains, Kéra scrutait la ligne d'horizon encore obscure. Quelques gouttes de pluie ricochèrent sur le sol aride, soulevant de-ci de-là des particules de poussière. Accourant dans sa direction, un jeune garçon la rejoignit. « T'es déjà levé ?» demanda Kéra en frictionnant la chevelure du petit bonhomme. Harry hocha la tête. « Combien de fois t'ai-je dit de ne pas courir quand tu entres dans l'aire de fouille ? Si tu trébuchais, tu risquerais d'anéantir plusieurs semaines de travail. Ce que tu pourrais briser est irremplaçable. Tu vois ces allées délimitées par des cordelettes ? Eh bien, imagine que c'est un grand magasin de porcelaine à ciel ouvert. Je sais que c'est pas le terrain de jeu idéal pour un garçon de ton âge, mais j'ai rien de mieux à t'offrir.
C'est pas mon terrain de jeu, c'est le tien. Et puis ton magasin, on dirait plutôt un vieux cimetière. »
Harry pointa du doigt le front nuageux qui avançait vers eux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le garçon. « Je n'ai jamais vu un ciel comme ça, mais cela ne présage rien de bon. »
« Ce serait chouette s'il pleuvait. »«
Ce serait une catastrophe, tu veux dire. File chercher le chef d'équipe. Je préfère mettre la zone de recherche à l'abri. » Le jeune garçon s'élança avant de s'immobiliser à quelques pas de Kéra.
« Cette fois, t'as une bonne raison de courir. Fonce !» ordonna-t-elle en agitant la main.
Au loin, le ciel s'obscurcissait toujours plus. Une bourrasque arracha le pan de toile qui protégeait un cairn.
« Il ne manquait plus que ça, »
marmonna Kéra en descendant de son muret. Elle emprunta le sentier qui menait au campement et retrouva à mi-chemin le chef d'équipe qui venait à sa rencontre.
« Si la pluie doit arriver, il faut recouvrir le plus de parcelles possible, renforcer les carroyages, mobiliser tous nos hommes, au besoin demander de l'aide au village. »«
Ce n'est pas la pluie, » répondit le chef d'équipe résigné, « et nous ne pouvons rien y faire. Les villageois s'enfuient déjà. »
Une gigantesque tempête de poussière entraînée par le chamal avançait vers eux. En temps normal, ce vent puissant qui traverse le désert d'Arabie Saoudite emprunte la direction du golfe d'Oman à l'est, mais nous n'étions plus en des temps normaux et la course du vent destructeur avait viré vers l'ouest. Devant le regard inquiet de Kéra, le chef d'équipe poursuivit ses explications.
« Je viens d'entendre l'alerte diffusée à la radio. La tempête a déjà balayé l'Érythrée, elle a franchi la frontière et arrive droit sur nous. Rien ne lui résiste. La seule chose à faire est de fuir vers les sommets et nous mettre à l'abri dans les cavernes. »
Kéra protesta. On ne pouvait pas abandonner ainsi le site.
« Mademoiselle Kéra, ces ossements qui vous tiennent tant à cœur sont restés enfouis ici durant des millénaires. Nous creuserons à nouveau, je vous le promets, mais encore faut-il être en vie pour cela. Ne perdons pas de temps, il ne nous en reste plus beaucoup. »
« Où est Harry ?»«
Aucune idée, » répondit le chef d'équipe en regardant autour de lui. « Je ne l'ai pas vu ce matin. »
Il n'est pas venu vous prévenir ?
Non, comme je vous l'ai dit, j'ai entendu les nouvelles à la radio, donné l'ordre d'évacuation et je suis venu aussitôt vous chercher.
Maintenant, le ciel était noir. À quelques kilomètres d'eux, le nuage de sable avançait comme une immense vague entre ciel et terre. Kéra laissa tomber sa timbale de café et se mit à courir. Elle quitta le chemin pour dévaler la colline jusqu'à la rive du fleuve en contrebas. Garder les yeux ouverts devenait presque impossible. La poussière soulevée par le vent griffait son visage et dès qu'elle criait le nom d'Harry, elle avalait du sable et croyait étouffer. Mais elle ne renonça pas. À travers le voile gris de plus en plus épais, elle réussit à discerner la tente où le jeune garçon venait la réveiller chaque matin pour aller découvrir avec elle le lever du soleil en haut de la colline. Elle repoussa la toile. Sa tente était vide. Le campement avait pris l'allure d'une ville fantôme, sans âme qui vive. Au loin, on pouvait encore apercevoir les villageois escalader les coteaux pour atteindre les grottes situées près des sommets. Kéra inspecta les tentes voisines, criant sans relâche le prénom du petit garçon, mais seul le grondement de la tempête répondait à ses appels. Le chef d'équipe l'empoigna et l'entraîna presque de force. Kéra regardait vers les hauteurs.
« Trop tard !»
cria-t-il à travers l'étoffe qui couvrait son visage. Il prit Kéra sous son épaule et la guida vers la rive du fleuve.
« Courez, bon sang, courez ! Harry ! Il a sûrement trouvé refuge quelque part. Taisez-vous et accrochez-vous à moi !»
Un raz de marée de poussière les poursuivait, gagnant sans cesse du terrain. En aval, le fleuve s'enfonçait entre deux hautes parois rocheuses. Le chef d'équipe repéra une anfractuosité et y entraîna Kéra précipitamment.
« Là ! » dit-il en la poussant vers le fond.
Il s'en était fallu d'un instant. Charriant terre, caillasses et débris arrachés à la végétation, la vague déferlante dépassait la hauteur de leur abri de fortune. À l'intérieur, Kera et son chef d'équipe se recroquevillèrent sur le sol. La grotte fut plongée dans une obscurité totale. Le grondement de la tempête était assourdissant. Les parois se mirent à trembler et ils se demandèrent si tout allait s'effondrer et les ensevelir à jamais.
« On retrouvera peut-être nos ossements dans 10 millions d'années ? Ton humérus contre mon tibia, tes clavicules près de mes omoplates. Les paléontologues décréteront que nous étions un couple d'agriculteurs, ou toi un pêcheur du fleuve et moi son épouse, enterrés ici. Évidemment, l'absence d'offrande dans notre sépulture ne nous attirera guère de considération. Nous serons classés dans la catégorie des squelettes de schmock et nous passerons le reste de l'éternité au fond d'une boîte en carton sur les rayonnages d'un musée quelconque. Ce n'est vraiment pas le moment de faire de l'humour. Et ce n'est pas drôle, râla le chef d'équipe. Et puis, c'est quoi des schmock ?
Des gens comme moi, qui travaillent sans compter les heures pour faire des choses dont finalement tout le monde se fiche et qui voient leurs efforts anéantis en quelques secondes sans pouvoir rien y faire.
Eh bien, mieux vaut être deux schmock en vie que deux schmock morts.
C'est un point de vue.
Le grondement dura encore d'interminables minutes. Si des pans de terre se décrochaient de temps à autre, leur abri semblait tenir bon. La lumière du jour pénétra à nouveau la grotte. La tempête s'éloignait. Le chef d'équipe se redressa et tendit la main à Kera pour l'aider à se relever, mais elle refusa cette main.
« Tu voudras bien fermer la porte en sortant ?» dit-elle.
« Je vais rester ici. Je ne suis pas certaine de vouloir voir ce qui nous attend. »
Le chef d'équipe la regarda, dépité.
« Harry !»
s'écria Kera en se précipitant au dehors. Tout n'était que désolation. Les arbustes qui bordaient la berge du fleuve avaient été décapités. La rive, d'ordinaire ocre, avait pris la couleur marron de la terre qui la recouvrait désormais. Le fleuve emportait des amas de boue vers le delta, situé à des kilomètres de là. Plus une seule tente ne tenait debout dans le campement. Le village de Hutt n'avait pas plus résisté aux assauts du vent. Les habitations déplacées sur des dizaines de mètres s'étaient disloquées contre les rochers et les troncs d'arbres. En haut de la colline, les villageois quittaient leurs abris pour découvrir ce qui était advenu de leur bétail, de leur culture. Une femme de la vallée de l'Omo pleurait, serrant ses enfants dans ses bras. Un peu plus loin, les membres d'une autre tribu se regroupaient. Aucune trace d'Harry. Kira regarda tout autour d'elle. 3 cadavres gisaient sur la berge. Un haut le cœur la gagna.
« Il doit être caché dans une grotte, ne vous inquiétez pas, nous le retrouverons, »
dit le chef d'équipe en la forçant à détourner le regard. Kera s'accrocha à son bras et ils remontèrent ensemble la colline. Sur le plateau où se trouvait le terrain de fouille, le carroyage avait totalement disparu, le sol était jonché de débris, la tempête avait tout détruit. Kera se baissa pour ramasser une lunette de terrain. Elle l'épousta machinalement, mais les verres de l'appareil étaient irrémédiablement endommagés. Un peu plus loin, le trépied d'un théodolite gisait patent l'air. Soudain, au milieu de cette dévastation, apparut la frimousse effarée du jeune Harry. Kera courut à sa rencontre et le prit dans ses bras. La chose n'était pas habituelle. Si elle savait exprimer par des mots son affection envers ceux qui avaient su l'apprivoiser, jamais elle ne s'abandonnait au moindre geste de tendresse. Mais, cette fois, elle serrait Harry si fort qu'il chercha presque à se libérer de son étreinte.
« Tu m'as fait une de ces peurs !» dit-elle en essuyant la terre collée au visage du garçon. « C'est moi qui t'ai fait peur. Après tout ce qui vient d'arriver, c'est moi qui t'ai fait peur !»
répéta Harry déconcerté. Kera ne répondit pas. Elle redressa la tête et contempla ce qui restait de son travail. Rien. Même le muret de terre sèche sur lequel elle s'asseyait encore ce matin s'était effondré, balayé par le chamal. En quelques minutes, elle avait tout perdu.
« Dis donc, il en a pris un sacré coup, ton magasin !»
dit Harry.
« Mon magasin de porcelaine !» murmura Kera.
Harry glissa sa main dans celle de Kera. Il s'attendait à ce qu'elle se défile, comme toujours. Elle ferait un pas en avant, prétextant avoir vu quelque chose d'important, de si important qu'il fallait vérifier tout de suite de quoi il s'agissait. Et puis, plus tard, elle effleurait la chevelure du garçon pour s'excuser de n'avoir pas su être tendre. Cette fois, la main de Kera retint celle qui s'offrait sans malice et ses doigts se resserrèrent sur la paume d'Harry.
« C'est fichu, » dit-elle presque sans voix. « Tu peux recreuser, non ?
Ce n'est plus possible.
T'as qu'à aller plus profond ?»
protesta l'enfant.
« Même plus profond, ce serait foutu quand même. Qu'est-ce qui va arriver alors ?